ce matin. Alors finalement, j'ai pensé faire l'instruction en deux temps. Premier temps, ce serait l'instruction plus générale, rapport entre la doctrine et la morale. Et puis ensuite, la deuxième, donc, ce sera des généralités sur les vertus. Donc le premier point a pour but de vous montrer, le rapport donc, entre doctrine et morale, que notre épanouissement ne peut se faire que dans le respect de notre nature, donc dans le respect de ce que nous sommes, que dans le respect également des commandements de Dieu, puisque justement les commandements de Dieu sont conformes à notre nature, Dieu nous a donné des commandements qui sont dans la ligne de notre nature, dans le respect de la pratique des vertus chrétiennes qui ont pour objet d'épanouir notre être. Donc il s'agit de comprendre que les exigences de la religion et de la morale ne sont pas opposées à notre nature. Elles sont sans doute opposées au vieil homme qui est en nous, c'est ce dont on a parlé hier, et elles sont opposées à nos mauvaises tendances, ça c'est clair, mais elles ne sont pas opposées à notre nature en elle-même. Donc Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur, et ce bonheur ne peut exister que dans le respect de notre nature. Donc Dieu n'agit pas de façon arbitraire, voyez. Dieu n'agit pas par fantaisie ou par caprice. Donc les commandements qu'il nous donne n'ont pas pour but d'empêcher notre épanouissement, mais au contraire de le procurer. Et pour cela, il suffit de regarder la création. Dieu a créé un univers qui est ordonné. Il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes, des anges. Il y a toute une hiérarchie dans la création. Et chaque être a une fin propre. Le soleil produit la lumière et la chaleur. Les arbres produisent leurs fruits. Les animaux, ont chacun une fin propre. Par exemple, l'abeille produit du miel, etc. Donc, chaque être tend vers une fin particulière. C'est là son épanouissement. Et donc, chaque être, pour s'épanouir, doit respecter sa nature. Par exemple, le pommier, il est fait pour produire des pommes. Il serait ridicule qu'un pommier puisse produire des poires. C'est pas sa nature, il n'est pas fait pour ça. Donc, il est limité par sa nature à produire des pommes. C'est là qu'on voit que chaque nature est limitée. Le poisson, il est fait pour vivre dans l'eau. Lui aussi doit respecter sa nature. Le poisson qui serait malheureux de ne pas pouvoir sortir de l'eau et qui voudrait venir sur la terre, eh bien, il mourrait immédiatement. Et au contraire, l'oiseau qui voudrait vivre dans l'eau, eh bien, il mourrait à son tour. Donc, il en est de même pour l'homme. L'homme, il a une nature particulière. Il faut qu'il connaisse cette nature et qu'il respecte cette nature. Il faut que l'homme connaisse sa nature d'homme. Donc qu'il réalise à la fois qu'il n'est pas un ange, qui veut faire l'ange fait la bête, et puis qu'il n'est pas un simple animal. Donc je ne dois pas faire de l'angélisme. J'ai un corps, il faut que j'entretienne ce corps, il faut que je le nourrisse, sinon je tomberai malade, je perdrai mon équilibre. Puis je ne dois pas vivre non plus comme un animal, comme un simple animal, au gré de mes passions et mes instincts. Parce que si j'ai un corps, comme l'animal, j'ai aussi une intelligence et une volonté libre. Donc ce qui me différencie de l'animal, c'est cette intelligence qui me permet de connaître le vrai, et cette volonté libre qui me permet de connaître le bien et de pouvoir m'avancer librement, de me mouvoir librement vers le bien. Donc l'animal, lui, il est déterminé par sa nature à suivre ses instincts, mais nous, nous avons la possibilité de dominer nos instincts et d'agir en fonction, non pas donc de nos instincts, mais de notre raison. C'est notre raison qui doit être le guide en tant qu'homme. Et ensuite, en tant que chrétien, en tant que catholique, c'est cette même raison, mais qui cette fois-ci sera éclairée par la foi, donc il y aura un nouvel éclairage qui nous permettra d'avancer vers le bien. Donc l'animal, lui, il est déterminé à suivre ses instincts. Un chien, vous lui donnez de la viande, il va la manger s'il a faim. Il ne va pas dire, non, aujourd'hui je fais un sacrifice, je ne mange pas de viande. Nous, quand on a une tablette de chocolat devant nous, eh bien on peut dire, c'est le carême, alors je fais un sacrifice. Donc face au bien sensible qui se présente à nous, normalement, on doit se demander, est-ce que c'est raisonnable de me porter vers ce bien, oui ou non? Donc mon radar, c'est ma raison. Et comme je le dis, en tant que catholique, la raison éclairée par la foi. Mais alors, ce qui complique les choses, c'est que on dit l'homme doit suivre sa nature, mais notre nature, malheureusement, comme on a vu hier, elle est en partie viciée. Et c'est ce qui complique un petit peu les choses. Ce qui complique les choses, c'est que notre nature étant blessée, il ne faut pas confondre nature et nature déchue. Donc il ne faut pas confondre les aspirations légitimes de notre nature avec les aspirations tordues de notre nature déchue. Puis ensuite, ce qui complique encore les choses, c'est qu'on doit suivre notre nature. Cette nature est une nature déchue, mais en même temps aussi, c'est une nature qui est enrichie par la grâce. Donc il y a un autre aspect ensuite de notre être qui fait qu'on doit s'élever même au-dessus de notre nature avec l'aide de Dieu. Donc pour m'épanouir, je dois respecter ma nature. Ça signifie avoir une connaissance aussi exacte possible des inclinations mauvaises qui sont en moi, et avoir une connaissance aussi de l'enrichissement que le bon Dieu m'a donné par sa grâce, afin que ce soit le meilleur de moi-même qui s'épanouisse. Donc on voit ici qu'il y a toujours deux écueils à éviter, soit de faire comme si notre nature est bonne en disant « c'est ma nature, c'est comme ça, moi je suis fait comme ça », et donc c'est de suivre sa nature en fait dans ce cas-là de dérégler, et en ce moment-là c'est un désordre. Et puis l'autre attitude peut-être, c'est justement en réalisant ses faiblesses de se décourager en disant « ben justement moi j'y arrive pas » et oublier que le bon Dieu nous a donné des moyens pour arriver à corriger ses faiblesses. Donc respecter ma nature, ça signifie maîtriser mes passions déréglées, et puis ça signifie aussi ordonner mes actes vers Dieu, parce que tout être est fait pour Dieu. L'homme est libre, on l'a dit tout à l'heure, il a la liberté. Mais la liberté n'est pas absolue, elle ne peut pas être absolue. Elle est absolue qu'en Dieu. Donc l'homme, il est déterminé par rapport à sa fin dernière. Il n'est pas déterminé de savoir où il peut trouver son bonheur. L'homme ne peut trouver son bonheur qu'en Dieu, c'est sa nature. Par contre, pour aller jusqu'à Dieu, il y aura une part de liberté qui va s'exercer. C'est-à-dire qu'il pourra plutôt agir de telle façon ou de telle autre pour avancer vers Dieu. Donc il est déterminé par rapport à sa fin, parce qu'il est fait pour Dieu, il est programmé comme ça, il a été conçu comme cela. Dieu seul peut remplir le cœur de l'homme. Mais pour atteindre Dieu, il y a une foule de possibilités. Je peux faire tel genre d'études ou tel autre, je peux me marier ou ne pas me marier, je peux passer mes vacances ici ou les passer là. Donc il y a des tas de possibilités quant aux moyens, mais pas quant à la fin. Donc la liberté est située dans les moyens. Donc toute liberté créée n'est jamais absolue. Toute liberté créée est relative, elle est toujours limitée. Par exemple, je ne suis pas libre de pouvoir voler comme un oiseau, j'ai pas d'ailes. Je ne suis pas libre de pouvoir vivre dans l'eau comme un poisson, mon organisme n'a pas été conçu pour vivre dans l'eau. Je ne suis pas libre de pouvoir choisir mes parents, ni l'époque de mon existence, ni même d'avoir tel don naturel. Donc je suis limité, je suis en partie déterminé par ma nature. Donc ma liberté est limitée par ma nature. Donc je dois tenir compte des limites de ma nature pour faire un bon usage de ma liberté. Celui qui ne respecte pas ses limites agit contre lui-même. Par exemple, celui qui dit « je suis libre de manger un champignon vénéneux », peut-être qu'il est libre de le manger, mais enfin, il pourra que s'empoisonner. « Je suis libre de boire 2 litres de vin par jour », ah, vous êtes libre, vous êtes sûr ? Peut-être la première fois vous êtes libre, mais très vite vous allez devenir esclave de votre bouteille. Si vous êtes esclave, vous n'êtes plus libre. Donc la liberté consiste à respecter notre nature. Si on use mal de notre liberté, eh bien, au lieu de s'épanouir, on s'auto-détruit et on devient esclave, du coup, de ses mauvais penchants. Au lieu que ce soit notre raison qui soit maîtresse de nous-mêmes, ce sont nos passions, on devient esclave de ses passions. Donc c'est très important d'avoir cette conception juste de la liberté, parce qu'aujourd'hui on parle toujours de liberté, on cherche une liberté sans frein et on ne réalise pas que c'est stupide. Celui qui dirait « moi je n'ai rien à faire de la loi de la pesanteur, je vais me jeter par la fenêtre pour montrer que je suis libre de faire ce que je veux », eh bien, il va se casser la figure. Celui qui sème les graines, il doit le faire à la bonne saison. S'il ne le fait pas, eh bien, ça ne donnera rien. Donc vous voyez que les lois ne s'opposent pas à notre liberté. Mais alors ce qui est vrai des lois physiques est vrai aussi des lois morales. La loi morale, comme les lois physiques, est fondée sur la nature des choses. Si Dieu, par exemple, me demande et me commande de l'aimer, c'est parce qu'il est infiniment aimable et digne d'être aimé. Si je dois honorer mes parents, c'est parce que ce sont eux qui m'ont mis au monde et qui ont voulu me donner une bonne éducation, donc qui nous ont fait grandir, donc sur leur naturel et surnaturel. Si je ne dois pas mentir, c'est parce que la parole est faite pour exprimer notre pensée et non pas pour affirmer le contraire de ce qu'on pense. Si vous avez affaire à quelqu'un qui ment, après vous ne savez plus quand est-ce qu'il dit le vrai, quand est-ce qu'il dit faux, et donc il n'y a plus d'échange possible, du point de vue humain. Donc agir contre les commandements, c'est agir contre Dieu, mais c'est aussi agir contre notre nature. Et ce qui est vrai des commandements est vrai aussi des vertus, donc c'est l'aspect qu'on devra développer. Donc les vertus que l'Église nous demande de pratiquer, si elles s'opposent en partie à notre nature déchue, elles ne s'opposent pas à notre nature d'être raisonnable. Par exemple, l'humilité n'est pas contraire à ma nature. L'humilité consiste à reconnaître ce que je suis. L'humilité, c'est la vérité. Et au contraire, l'orgueil est un mensonge. L'orgueilleux, c'est celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc, en recherchant l'humilité, je cherche à me mettre dans la vérité, tout simplement. De même, la charité n'est pas contraire à ma nature. C'est vrai qu'en raison de ma nature déchue, je suis égoïste, donc j'ai tendance à rechercher mon bien propre. Mais la charité n'est pas contraire à ma nature, parce que je suis fait pour aimer. Le bon Dieu m'a donné un cœur pour aimer. Et aimer, c'est se donner. Donc, pour qu'un être s'épanouisse, il doit respecter sa nature. C'est vrai des minéraux, des végétaux, des animaux, des anges et des hommes. Et donc, pour nous qui sommes des êtres humains, ça signifie pratiquement accepter d'être un homme et non un ange, ni un animal. Ensuite, ça signifie reconnaître que nous avons une nature qui est blessée et qui est aussi enrichie par la grâce. C'est tout cet aspect-là qu'on devra voir par la suite. Et puis, ça signifie encore respecter la loi morale qui a pour but de me conduire vers ce pourquoi j'ai été créé. Avec mes qualités, mais aussi mes défauts, sans me comparer aux autres. Je suis ce que je suis, je dois apprendre à m'aimer, je ne dois pas pactiser avec mes défauts, mais je dois apprendre à supporter mes propres défauts. Si je dois être patient vis-à-vis des autres, je dois être aussi patient vis-à-vis de moi-même. Donc après ce préambule dans les rapports entre doctrine et morale, pour comprendre que la morale chrétienne n'est pas du tout opposée à notre nature, mais ne consiste qu'à respecter notre nature, voyons un aspect de la morale, à savoir la pratique des vertus. Donc on l'a vu, l'homme est créé pour le bonheur, il est créé pour le ciel, il ne peut être comblé que par Dieu. Ce bonheur, l'homme doit le mériter, il doit le mériter en faisant le bien et en évitant le mal, c'est-à-dire en respectant les commandements de Dieu et de l'Église, et puis cette liberté lui permet de se mouvoir par lui-même, donc vers le bien. Difficultés qui se présentent sont les obstacles à notre ascension vers Dieu, c'est ce qu'on a vu hier, c'est notre nature déchue, le vieil homme qui est en nous, qui est un obstacle à mon ascension vers Dieu, le démon qui nous met les bâtons dans les roues et qui cherche à empêcher mon ascension vers Dieu, et puis enfin le monde en tant qu'il est sous la coupe du démon et qui aussi est un obstacle à mon ascension vers Dieu. Surtout aujourd'hui dans la société actuelle, il y a des tas de tentations dans le monde qui sont de nouveaux obstacles que je dois affronter si je veux rester fidèle à Dieu. Alors, pour pallier ces difficultés, le bon Dieu nous a donné un remède. Et le remède par excellence, c'est la grâce. Par monsieur l'abbé du Châtelet, mais puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, donc je célébrerai une messe de requiem tout à l'heure pour les enfants, et donc je parlerai davantage des fins dernières, mais je pense que ce sermon, vous l'aurez les jours prochains. Donc, la grâce est le remède aux déficiences qui sont en nous depuis le péché originel. Et la grâce a deux propriétés. La première propriété de la grâce, c'est de nous guérir de nos affections déréglées. C'est ce qu'on appelle la gratia sanans. Et deuxième propriété de la grâce, c'est de nous élever à l'ordre surnaturel. C'est ce qu'on appelle la gratia elevans, la grâce qui élève. Donc la grâce, c'est une participation à la vie de Dieu. Dieu qui vient dans notre âme pour nous rendre capables de l'aimer surnaturellement. De le connaître tout d'abord et de l'aimer surnaturellement. Donc la grâce va modifier notre âme pour la rendre capable de Dieu. Mais si notre âme est surélevée par la grâce, nos facultés également le sont. Donc quand on dit que nos facultés ont besoin d'être régénérées, affermies, consolidées, bon, il s'agit de notre intelligence, donc de notre volonté, de notre sensibilité, qui, comme hier on l'a vu, sont déréglées depuis le péché originel. Alors, qu'est-ce qui va stabiliser nos facultés? Ce seront les vertus. Alors, premier point, avant de voir les vertus surnaturelles, qui sont le fruit de la grâce de Dieu, premier point, les vertus naturelles. Quel est le but des vertus? C'est de fortifier notre organisme spirituel. Et on a pour but de fortifier notre organisme spirituel pour nous aider à accomplir le bien avec plus de facilité et de maîtrise. Notre intelligence, notre volonté, notre sensibilité sont d'abord malléables. Lorsque le petit bébé vient au monde, son intelligence n'est pas encore développée, sa volonté non plus, sa sensibilité non plus, et c'est petit à petit que d'abord l'enfant va se développer dans sa sensibilité, et puis ensuite son intelligence et sa volonté vont suivre. Mais au départ, on dit qu'elles sont malléables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être orientées vers le bien ou vers le mal. Et c'est tout le rôle de l'éducation de faire en sorte de donner à l'enfant de bons principes pour que son intelligence s'oriente vers le bien, vers le vrai, et sa volonté vers le bien. Et donc apprendre à dominer sa sensibilité qui est déréglée. Cette acquisition des vertus, eh bien essentiellement par la répétition des actes. Et on finit par poser ces actes avec plus de facilité et de maîtrise. C'est par cette répétition des actes que l'homme se façonne intérieurement, soit en bien, soit en mal. Si c'est en bien, on parlera de vertu, si c'est en mal, on parlera de vice. Donc pour qu'on puisse vraiment parler de vertu, il faut que les actes bons que l'on pose, on puisse les poser avec une certaine aisance, avec une certaine facilité. Tant que ce n'est pas le cas, on parle de simple disposition. Donc la vertu, c'est lorsque ces actes sont posés, je dirais, comme une seconde nature. Femme forte, ça veut dire que d'une façon habituelle, lorsqu'une difficulté se présente, elle apprend, elle a appris à se dominer, et donc elle a appris à vaincre ses difficultés. Et à l'inverse, une femme qui est faible, ben c'est une femme qui se décourage facilement lorsqu'un obstacle se présente. Qu'il en est du domaine moral comme du domaine des arts et des sciences. Celui qui veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, bien au début, il a besoin de beaucoup de leçons. Donc au départ, c'est exigeant. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour arriver à certains résultats. Puis, au bout d'un certain temps, à force de répéter toujours les mêmes actes, ça devient plus facile. Et finalement, celui qui persévère, il arrive à posséder cet art de la musique. Il devient musicien. De même, l'ouvrier. La différence qu'il y a entre l'ouvrier qualifié et le manœuvre, c'est que l'ouvrier qualifié, c'est celui qui est arrivé à posséder un savoir-faire qui est en lui comme un surcroît de capacité. Donc, dans le plan de Dieu, l'homme doit s'efforcer d'acquérir les vertus morales qui vont stabiliser son organisme spirituel et qui lui permettront de se mouvoir comme naturellement dans le bien. Donc, après avoir vu le but des vertus, voyons comment les acquérir. On a déjà dit un mot. Donc, les vertus s'acquièrent par répétition des actes. La question de la ponctualité, par exemple, de la messe du dimanche. En général, c'est à peu près toutes les mêmes personnes qui arrivent une demi-heure à l'avance à la messe, 10 minutes à l'avance, 5 minutes en retard, un quart d'heure en retard. Alors demander à quelqu'un qui arrive toujours en retard d'arriver à l'heure, ça va lui paraître insurmontable. Mais qu'il en prenne l'habitude, ben ça lui deviendra facile. On le reconstate par nous-mêmes. Pendant le carême, vous ne mettez pas de sucre dans votre café. Au début du carême, votre café, qui vous paraît bien amer. Au bout d'un mois, vous faites plus attention. Alors maintenant, un mot du rapport entre vertu et habitude, c'est important. Je vous ai dit qu'à force de poser des actes, on finit par contracter une habitude. Maintenant, il faut montrer la différence qu'il y a malgré tout entre une vertu et une habitude. Donc, ce qu'il y a en commun entre la vertu et l'habitude, dans les deux cas, on pose les actes régulièrement et relativement facilement, parce que justement, on en a pris l'habitude. Mais il faut savoir que l'habitude est une détermination acquise qui est d'un type inférieur à la vertu. En effet, l'habitude cultive l'automatisme. L'habitude vous fait agir d'une façon routinière et machinale. Par exemple, la première leçon de conduite en voiture, eh bien, on vérifie qu'on est bien au point mort. Alors après, oui, c'est ça, je dois mettre le contact. J'appuie sur l'embrayage, bon, je regarde les rétroviseurs. Bon, après, à force, je pense, de répéter ces actes-là, on n'a plus besoin de réfléchir à chaque geste que l'on pose. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Donc, on en a pris l'habitude. Et donc, on agit d'une façon machinale. La différence qu'il va y avoir entre l'habitude et la vertu, c'est que la vertu est un acte volontaire. Et c'est justement en ce sens que la vertu est méritoire. L'homme doit prendre de bonnes habitudes, mais il doit éviter de devenir un homme habitué. Et c'est ici l'importance, je pense, de la prière et notamment de l'oraison, qui nous permet, au début de notre journée, d'orienter notre vie vers Dieu et de faire en sorte que tous les actes que nous poserons au cours de notre journée ne soient pas uniquement des actes de routine, mais qu'ils fassent en sorte que ces actes soient vraiment méritoires. Libre et donc méritoire. Alors la division des vertus morales, après avoir vu comment les acquérir, avoir vu la différence entre vertu et habitude, tout d'abord pour agir droitement sur le plan purement naturel, l'homme a besoin d'une vertu régulatrice générale, une vertu qui lui serve de radar, de repère, de fil conducteur. Et c'est le rôle de la prudence, qui a son siège dans la raison pratique. Donc l'homme prudent, c'est un homme qui agit selon la droite raison. Il agit de façon raisonnable, c'est-à-dire qu'il agit selon la loi naturelle qui est inscrite dans son cœur. Les 10 commandements qui ont été révélés par Dieu au sommet du mont Sinaï forment ce qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle, elle est inscrite dans le cœur de chaque homme. Et si cet homme n'a pas été détourné par une mauvaise éducation, eh bien normalement, chaque fois qu'il accomplit un acte, il a en lui, dans sa conscience, cette connaissance de la loi naturelle qui lui permet de s'avancer vers le bien et d'éviter le mal. Notons ici que le terme de prudence n'implique pas du tout ce que le terme français laisse suggérer, une quelconque pusillanimité ou de réserve craintive. On dit, oui, celui-là, il est prudent. En fait, il est prudent parce qu'il ne se mouille pas. Ce n'est pas du tout ça. L'homme prudent, ce n'est pas celui qui est toujours en retrait, qui ne se prononce jamais pour éviter de ramasser des coups. C'est celui qui sait passer aux actes chaque fois qu'il le faut, même dans les situations les plus héroïques. La vertu de prudence, il y a les 3 actes de conseil, de jugement et d'intimation, le fait de passer à l'acte. Et le plus important, c'est le fait d'être capable de passer à l'acte. Donc pour agir droitement, on a besoin d'une règle générale, d'un radar. Ce radar, c'est la prudence. Prudence qui va corriger la blessure d'ignorance dont on avait parlé hier. Ensuite, dans l'agir humain, il y a les actes qui portent sur les relations avec autrui. L'homme rentre en contact avec d'autres hommes. Ça va être la vertu de justice qui permettra à l'homme de rendre à chacun ce qui lui est dû. Justice qui a son siège dans la volonté. Et ensuite, ces 4 vertus qu'on voit maintenant, c'est les vertus cardinales, s'étendent ensuite en sous-vertus. Là, par exemple, la vertu de religion, qui consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû, se rattache à la vertu de justice. Elle ne fait pas partie intégrante de la vertu de justice parce qu'on ne peut pas rendre à Dieu parfaitement ce qu'on lui doit. Dieu est tellement au-dessus de nous qu'on peut remplir cette vertu qu'imparfaitement. C'est pour ça qu'on ne fait que la rattacher à la vertu de justice. De même, la vertu de piété filiale, le fait de rendre l'honneur qui est dû aux parents, on ne peut pas rendre aux parents tout ce qu'on leur doit, mais on doit essayer au maximum de manifester notre reconnaissance. Donc je disais que dans l'agir humain, il y a les actes qui portent sur la vie personnelle.
Donc qui règlent son affectivité, c'est-à-dire ses passions. Alors parmi les passions, les unes éveillent des désirs qui ont besoin d'être modérés, et c'est le rôle de la vertu de tempérance, qui a son siège dans l'appétit concupiscible, comme on l'avait vu hier. Et puis vous avez les autres qui ont pour but de faire face aux obstacles que l'homme rencontre dans la vie et qui pourraient le décourager. Et c'est là le rôle de la vertu de force. Donc la force a son siège dans l'appétit qu'on appellera irascible, et elle est synonyme finalement de maîtrise de soi. Et là encore, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y aura des sous-vertus qui vont se rattacher à cette vertu de force, comme par exemple la grandeur d'âme, la patience, la constance, la persévérance. Un mot sur l'origine de cette division des vertus. Les 4 vertus morales, donc, qu'on appelle aussi cardinales, qui sont les vertus principales en quelque sorte, qui nous mettent en rapport avec le prochain, ou également qui nous permettent de nous avancer dans le droit chemin. Donc cette division, on la doit à la philosophie grecque. Platon les nomme dans la République comme les 4 vertus fondamentales nécessaires à l'État. Et puis ensuite, Aristote a précisé cette tradition en montrant que ces vertus se trouvent tous dans un milieu. Donc d'où l'expression, enfin que vous, l'adage, in medio stat virtus, la vertu est dans un milieu. Donc il s'agit ici toujours des vertus morales, des vertus naturelles. On verra que les vertus surnaturelles, en tout cas les vertus théologales, elles ne sont pas dans un milieu. Jamais on ne croira suffisamment, jamais on espérera suffisamment en Dieu, jamais on l'aimera suffisamment. Donc les vertus théologales ne sont pas dans un milieu. Mais les vertus morales sont toutes dans un milieu. Par exemple, la force sera un sommet entre la faiblesse et la témérité. La persévérance
sera encore dans un sommet entre d'un côté la mollesse, celui qui se laisse accabler par l'épreuve, et puis l'entêtement, celui qui poursuit l'attaque alors que raisonnablement il devrait s'arrêter. Même la vertu de religion, là encore on retrouvera deux écueils. L'impiété, celui l'impie, celui qui ne remplit pas ses devoirs de religion, et puis ensuite la superstition, celui qui rend des cultes aux faux dieux. Même l'usage des biens matériels, il va y avoir la libéralité, le fait de le libéral, c'est celui qui fait un bon usage de ses biens matériels. Il y aura là encore deux écueils, un par défaut et l'autre par excès. Il y aura l'avarice et la prodigalité, c'est celui qui va gaspiller les biens. Donc là encore, il y aura un juste milieu à acquérir entre ces deux vices opposés. Et donc vous pourriez prendre ainsi toutes les vertus morales pour vous rendre compte qu'elles sont dans un milieu. Et ça c'est très important parce que ça nous montre que le catholique est celui qui a le sens de la mesure. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que ces réflexions donc, nous viennent de païens qu'elles seraient pour autant à exclure. On voit que l'Église les a appropriées, mais même déjà dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de la Sagesse, qui est un des derniers livres de l'Ancien Testament, il est fait mention de ces quatre vertus cardinales. Donc c'est le chapitre 8, verset 7. La sagesse, y est-il dit, enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force, bien les plus utiles aux hommes pendant la vie. Donc la sagesse enseigne aux hommes les quatre vertus cardinales. Et dans le Nouveau Testament, on voit très bien notre Seigneur inviter les âmes à la pratique de ces vertus. Notre Seigneur qui dit par exemple, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est la vertu de justice. » Lui-même fait preuve de prudence face aux Juifs. Lorsque son heure n'est pas encore venue, eh bien, il se cache pour éviter d'être pris, montrant par là sa prudence. Ensuite, au moment de l'épreuve, il fait preuve de patience dans la croix, dans sa passion, et également de tempérance, au point qu'il pouvait dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Donc, parfaite maîtrise de lui-même dans toutes les circonstances. Et saint Augustin, ensuite, va parler de ses vertus morales en disant que c'est en quelque sorte l'art de bien vivre, ce qui ne l'empêchera pas de mettre l'accent sur les vertus théologales et manifester la prééminence des vertus théologales sur les vertus morales. Importance de ces vertus naturelles, saint François de Sales affirmait « Nous ne sommes hommes que par la raison, et c'est pourtant chose rare de trouver un homme vraiment raisonnable. D'autant que l'amour-propre nous détracte ordinairement de la raison, nous conduisant insensiblement à mille sortes de petits mais dangereuses injustices et iniquités. » Donc, importance des vertus naturelles, ce sont elles qui nous permettent d'agir de façon raisonnable. Et en tant qu'homme, nous devons agir de façon raisonnable. Si importantes que soient ces vertus naturelles, voyons maintenant les limites alors de ces vertus. Eh bien, si importantes qu'elles soient, elles sont impuissantes à nous faire mériter le ciel par elles-mêmes. À une action vertueuse qui est dirigée par la raison ne peut correspondre qu'un mérite du même ordre. À action naturelle, mérite naturel. Pour pouvoir mériter surnaturellement, et le ciel est d'ordre surnaturel, donc pour pouvoir mériter le ciel, qui est un bonheur surnaturel, il faut être capable de poser des actes surnaturels. Et c'est là tout l'intérêt, justement, des vertus surnaturelles que Dieu nous a communiquées avec la grâce pour nous permettre de mériter le ciel. Donc les quatre vertus morales dont nous venons de parler maintenant, on les a vues d'un point de vue purement naturel. Ces mêmes vertus morales vont se retrouver au plan surnaturel. À savoir qu'en nous donnant sa grâce, Dieu va nous communiquer avec sa grâce ses vertus surnaturelles. Il va nous communiquer une prudence surnaturelle, il va nous communiquer la vertu de justice surnaturelle, la vertu de tempérance surnaturelle et la vertu de force surnaturelle. Extérieurement, matériellement, si vous voulez, ce sont les mêmes vertus, mais formellement, elles sont différentes. Elles sont différentes parce que dans leur motif déjà, la règle ne sera plus la simple raison, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, la raison éclairée par la foi. Donc la foi va me donner un nouvel éclairage qui va me permettre d'agir essentiellement en fonction de Dieu, en fonction du ciel, en fonction de ma nature déchue que je connaîtrai et qui me sont inaccessibles au plan de la simple raison. Donc, comme sur le plan naturel, elles me permettront de prendre conseil, elles me feront également porter un jugement juste, elles me feront passer aux actes, donc les actes seront les mêmes, mais le motif sera différent. Donc, par exemple, la vertu de tempérance, sur le plan naturel, je sais qu'il faut que je ne mange pas trop, parce que si je mange trop, après, je suis fatigué, ou je dis des bêtises, Donc, je constate qu'il y a certains désordres. Donc, sur le plan naturel, je trouverai des motifs naturels à ne pas trop manger. Sur le plan surnaturel, j'en trouverai d'autres. J'aurai une connaissance plus grande des faiblesses de ma nature déchue. Je saurai qu'en m'accordant toujours ce que je désire, j'ai envie, j'affaiblirai mon organisme spirituel. Et donc, la vertu de tempérance me permettra de me modérer dans l'usage des aliments afin de conserver le contrôle de ma raison et d'agir donc de façon raisonnable. Donc, ces vertus surnaturelles sont surnaturelles dans leur principe, parce que c'est Dieu qui nous les infuse, ces vertus surnaturelles, on les a reçues avec la grâce. Elles sont surnaturelles dans leur motif, puisque le motif pour lequel j'agis, c'est Dieu vu par la foi. Et enfin, elles sont également surnaturelles dans leur fin, puisque le but, c'est d'acquérir le bonheur du ciel, qui est un bonheur surnaturel. Alors, si vous avez bien compris ce que je viens de dire maintenant, normalement, doit surgir une question dans votre esprit. Mais afin d'éviter que tout le monde ne réponde en même temps, je vais me contenter de poser moi-même la question. Si Dieu nous communique les vertus morales, pourquoi les acquérir? Si Dieu me les donne avec le baptême, quel est l'intérêt d'acquérir des vertus que j'ai déjà? Quel est donc l'intérêt des vertus acquises si ces mêmes vertus sont infuses par Dieu? Eh bien, les vertus infuses donnent à l'homme la possibilité de poser des actes surnaturels, mais n'en donnent pas la facilité. Donc, le rôle de la vertu acquise est de permettre à l'homme de produire facilement les actes de vertu infuses. Je vais prendre un exemple. L'alcoolique qui se confesse. Il se confesse en regrettant sincèrement de trop boire. Donc, il le regrette profondément. Il a le désir de ne plus tomber dans ce vice. Et le prêtre lui donne l'absolution. En recevant l'absolution, il reçoit la grâce. Il reçoit en même temps toutes les vertus. Donc, il reçoit les vertus surnaturelles, vertus théologales et vertus morales. Donc, il reçoit la vertu morale infuse de tempérance. Malheureusement, il n'a pas la vertu acquise de tempérance. Par conséquent, il passe devant un bar, et puis, paf, tentation trop forte, il rentre, il rechute. Donc, il a besoin d'acquérir la vertu de tempérance pour arriver à la maîtrise de lui-même. Donc, l'acquisition des vertus naturelles a pour but d'éloigner les obstacles à l'effet produit par les vertus surnaturelles. Donc, on doit détruire les vices opposés aux vertus infuses pour que ces vertus infuses puissent produire leurs fruits. Donc, les vertus infuses, donc Dieu nous les a données, il nous les donne en puissance, si vous voulez, mais pour faire en sorte que ces vertus passent aux actes, eh bien, on a besoin d'avoir la vertu acquise correspondante. Si je n'ai pas la vertu acquise correspondante, si j'ai un vice opposé à cette vertu, en ce moment-là, ce vice sera un obstacle pour que cette vertu puisse produire des actes correspondants. J'ai la vertu infuse de tempérance, je n'ai pas la vertu acquise de tempérance, j'ai même le vice contraire. La vertu infuse ne va pas me donner la force de corriger ce vice qui est en moi. Donc il faut d'abord que j'enlève le vice, que j'arrache ce vice, pour que la vertu infuse puisse produire les actes correspondants. Et dès lors que je ferai des efforts pour me corriger de ce défaut que je peux avoir, alors à ce moment-là, la vertu produira des actes d'ordre surnaturel. Alors juste un mot en terminant, des vertus théologales, on a surtout parlé des vertus morales, parce que normalement on devra développer après des vertus théologales. Donc si les vertus morales regardent les moyens pour arriver à Dieu, les vertus théologales, elles, se portent sur la fin, c'est-à-dire sur Dieu lui-même. Donc la foi va me permettre de connaître Dieu dans sa vie intime et les moyens d'arriver jusqu'à lui. L'espérance va me permettre de me rapprocher de lui et d'espérer en lui. Et puis enfin, la charité va me permettre de m'unir à lui. Et comme on l'a dit, à la différence des vertus morales, ces vertus théologales n'ont pas de limite. Comme disait très bien saint Augustin, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mais elles aussi, elles vont se développer par des actes. Alors il y a parfois des fidèles qui disent, ben oui, moi j'ai du mal à croire. Ben justement, poser des actes de foi. Mon Dieu, je crois. De la même manière que l'art de la musique, comme je disais, s'acquiert par des répétitions régulières. Et si on arrête de jouer de la musique pendant des années, eh bien on va perdre en partie ce don de musicien. Il en est de même des vertus théologales. Ma foi diminue si je ne prie pas. Et mon espérance diminue si je ne recours pas régulièrement au sacrement. Ma charité se refroidit si je ne pose pas des actes de charité. Donc les vertus se développent en posant les actes. Donc au lieu de se poser la question et de prendre sa température 36 fois par jour en se demandant « Est-ce qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, j'aime vraiment Dieu ?» Il faut faire des actes « Mon Dieu, je vous aime. Aidez-moi à vous aimer davantage. » Donc c'est en posant des actes que notre charité va s'accroître. Alors ce soir, nous allons parler de l'humilité parce que c'est souvent une vertu qui est mal comprise. C'est plus facile d'en parler que de la pratiquer, malheureusement. Donc l'humilité, par exemple, ce n'est pas se diminuer au moins au point de méconnaître ses qualités et de ne se croire capable de rien. L'humilité, ce n'est pas encore laisser ses talents inexploités par fausse modestie. C'est peut-être de la paresse ou de la faiblesse, mais ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas encore cultiver un extérieur modeste ou incongru pour finalement attirer l'attention des autres sur soi. On joue l'humble, avec la tête légèrement penchée. Donc normalement, l'humilité va de pair avec la simplicité et non pas avec l'excentricité, vous voyez, c'est pas la même chose. L'humilité ne consiste pas non plus à affirmer aux autres qu'on est bon à rien. Parce qu'il suffit qu'en ce moment-là, l'interlocuteur rentre dans votre jeu et dise « bah oui, en vrai, c'est vraiment nul hein, » pour que la personne se mette dans tous ses états. C'est bien le signe que, en fait, elle disait le contraire de ce qu'elle pensait. C'est pour qu'on dise « mais non, tu n'es quand même pas si bête que tu le penses. » Alors voyons ce qu'elle est, après avoir vu ce qu'elle n'est pas. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu l'humilité dans l'Antiquité païenne? Est-ce que les païens ont connu cette vertu? Le mot « humilité » vient du latin « humilitas », donc « humus », c'est la même racine, donc qui signifie « ce qui est peu élevé, ce qui est près de la terre ». Et dans le langage religieux, l'humilité est une disposition spirituelle qui est opposée à l'orgueil, ou encore à la vanité, à la suffisance. Les pères de l'Église et les théologiens ne sont pas tous d'accord sur cette question de l'humilité chez les païens. Ce que l'on peut reconnaître, en tout cas, c'est que, comme on l'a vu, en particulier les deux grandes références chez certains païens, enfin des païens qui étaient des modèles au niveau des philosophes, c'est surtout Platon et Aristote, on a vu que Platon parlait des vertus morales, des vertus cardinales, et qu'Aristote situait ces vertus dans un milieu. Donc ils avaient, en tout cas, un certain idéal de la mesure, d'une certaine mesure. Au point que dans le temple de Delphes, il était écrit cette maxime « rien de trop ». Ou encore le fameux « connais-toi toi-même ». Et la connaissance de soi, on verra qu'elle est à la base de l'humilité. Bon, elle suppose d'abord la connaissance de Dieu, comme on va le voir, mais la connaissance de soi rentre aussi dans l'humilité. Et par ailleurs, cette modération qui apparaît chez ces païens, chez ces philosophes païens, n'était pas pour autant pusillanimité, puisque on voit que plusieurs ont eu une certaine grandeur d'âme. On voit la magnanimité qui apparaît chez les héros, chez certains hommes d'État, chez certains philosophes. Mais là où l'on constate la faiblesse des païens, c'est que pour acquérir la vertu, ils ne s'appuient que sur eux-mêmes. Donc le philosophe ne s'appuie que sur lui pour arriver à cet idéal de la mesure, ou à cet idéal également de l'héroïsme dans certains cas. Notons aussi que ces moralistes païens condamnait la forme d'orgueil qui est par exemple la vanité, que ce soit sous la forme de la coquetterie, de la vantardise ou de la fierté dédaigneuse à l'égard du prochain. Donc en conclusion, on peut dire que
si par sa raison, donc puisque l'idéal de Païen c'était de vivre de façon raisonnable, l'homme a pu cultiver une certaine modestie, il n'a pas pu pratiquer la véritable humilité chrétienne. Et on le verra pourquoi, en définissant ce qu'est cette humilité chrétienne. Dans l'Ancien Testament, l'humilité se rattache à la pauvreté. Dans les psaumes, ça revient sans cesse. Dieu aime les pauvres. Il a l'amour des pauvres. Et s'il est question de la pauvreté matérielle, il est question surtout de la pauvreté spirituelle. L'attitude d'âme, de l'âme devant Dieu, c'est la forme de dépouillement. L'âme qui reconnaît qu'elle n'est rien et qu'elle doit tout de Dieu. Notamment, notre Seigneur, justement, promet la béatitude aux pauvres en esprit. C'est la première béatitude. Les béatitudes sont le sommet de la morale chrétienne, parfait, que l'on peut attendre d'un chrétien. Et ces béatitudes commencent par celle de la béatitude des pauvres en esprit. Donc il faut se vider soi-même pour se remplir de Dieu. Si on est rempli de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Plus on se videra de soi-même, plus le bon Dieu pourra entrer en nous. Dieu donne sa grâce aux humbles. Et notre Seigneur lui-même nous enseignera cette vertu en disant qu'il est notre modèle, comme Monseigneur le rappelait à midi. Notre Seigneur est notre modèle, et notre Seigneur nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Donc il ne dit pas « Apprenez de moi que je suis tout puissant, que j'ai créé le monde, que je suis le maître de l'univers. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ensuite, l'humilité chez les pères de l'Église. La sanctification est conçue par les pères de l'Église comme un retour à l'état primitif du paradis. On a commencé par là, on a vu d'abord Dieu, après on a vu l'état de l'homme dans le paradis, avant de voir la chute. Pour les pères de l'Église, souvent, ils disent qu'il s'agit de retrouver justement cette domination des passions, de la raison sur les passions, et d'abord de la raison qui doit être soumise à Dieu. Donc il faut retrouver cet ordre, Dieu, la raison et nos passions. Et comme justement la chute, c'est l'orgueil qui était au principe de la chute, ça va être l'humilité qui sera au principe du relèvement. Donc l'humilité pour eux est la première vertu qu'il faut essayer d'acquérir, en ce sens qu'elle enlève l'obstacle à la grâce. Mais seulement, elle n'est pas nécessaire simplement au début de la vie spirituelle, mais elle reste nécessaire tout au long de la vie spirituelle. Et au contraire, elle devient de plus en plus nécessaire dans le sens où on peut avoir tendance à se glorifier du bien que l'on peut faire objectivement et qu'on peut perdre par là le fruit du bien que l'on fait. Selon les pères également, ils voient le rapport entre l'humilité et la grandeur et ils disent que l'humilité est la source de la véritable élévation. Donc la grandeur d'âme, la véritable grandeur tout court, est inséparable de l'humilité. Donc la grandeur ne consiste pas à se faire les gros bras, les gros durs, à jouer au dur, mais consiste à se reconnaître pour ce que nous sommes. Et les pères alors nous montrent que notre Seigneur est vraiment le modèle d'humilité. Saint Augustin dit « Deus est humilis et tu superbus ». Dieu est humble et toi tu es orgueilleux. Alors, après avoir vu l'humilité chez les pères, on continue. La nature de l'humilité maintenant. Après le survol rapide historique, voyons ce qu'est l'humilité. Et ici, je vous prendrai la définition de Monseigneur Gay, G-A-Y, qui était vicaire général et puis ensuite évêque auxiliaire du cardinal Pie,
évêque de Poitiers au siècle dernier. Et voici comment il définit l'humilité. Il dit, l'humilité est une vertu qui, sous l'empire de la lumière dans laquelle Dieu révèle à ses créatures et donc cet abaissement conduit ensuite la créature à se mettre à sa juste place devant Dieu et devant les hommes. Donc je répète, l'humilité est une vertu qui, sous l'empire de la lumière, dans laquelle Dieu révèle à ses créatures ce qu'il est et ce qu'elles sont, les porte à s'abaisser. Alors l'intérêt de cette définition, tout d'abord, c'est de voir la place de Dieu même dans l'acquisition de cette vertu d'humilité. En effet, Mgr Gay dit que cette vertu vient de la lumière que Dieu nous donne de ce qu'il est et de ce que nous sommes. Par notre raison, et même par la foi en elle-même, on a beaucoup de mal à comprendre, enfin, on ne peut pas comprendre Dieu, mais on a beaucoup de mal à réaliser qui est Dieu et qui nous sommes. Alors bien sûr que si c'est Dieu qui vient nous montrer qui il est et ce que nous sommes, comme quand il est apparu à Sainte-Catherine de Sienne en disant « Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas », en ce moment-là, bien sûr que ça nous plonge nécessairement dans la réalité. Et donc, il y a une humilité qui est acquise, que l'on peut acquérir par la réflexion, par la méditation, par la prière, et il y a une humilité qui vient de Dieu lui-même et qui est beaucoup plus profonde, où c'est Dieu qui imprime à l'âme, qui montre à l'âme qui il est et qui elle est. Et on constate dans cette définition donc que l'origine de cette vertu, il y a une humilité acquise et une humilité infuse, et ensuite que cette vertu résulte d'une double connaissance de Dieu et de soi-même. La connaissance de soi-même, c'est ce dont on a déjà parlé. C'est donc le fait que nous sommes une créature. En tant que créature, on est dépendant en tout de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous maintient dans l'existence. Malheureusement, nous sommes en plus des créatures pécheresses. Donc, en tant que pécheurs, nous avons tendance à nous écarter de Dieu. Et connaissance de soi-même, c'est aussi connaissance de tout l'organisme spirituel que Dieu nous a donné pour pallier nos déficiences. Donc c'est là la connaissance de nous-mêmes. Connaissance de nous-mêmes qui nous fait réaliser que ce que nous sommes, dans la partie positive de ce que nous sommes, vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Connaissance de Dieu. Donc l'humilité est le fruit d'une connaissance de Dieu. Connaissance des perfections de Dieu, connaissance de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu en lui-même et de l'amour de Dieu pour nous. Et alors le fruit de cette connaissance, le résultat de cette connaissance, c'est un abaissement. C'est un abaissement qui est tout simplement la remise à notre place de ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui nous permet de sortir de l'illusion? C'est la méditation des grandes vérités de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes. Apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. On sait justement croiser ce regard. Il est de miséricorde pour ceux qui croient à ce regard. C'est ce qu'a perdu Judas, c'est qu'il a refusé de croiser le regard de notre Seigneur. Ce qui aurait sauvé Judas, c'était de croiser le regard du Seigneur. Ce qui a sauvé Saint-Pierre, c'est qu'il a accepté de regarder notre Seigneur. C'est ce que dit Saint-Luc. Il regarda notre Seigneur et il pleura amèrement. Donc c'est ce regard de Dieu, ce regard d'amour, qui a touché le cœur de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a compris que la miséricorde de Dieu était plus grande que son péché. Et au contraire, Judas, ce qu'il a perdu, c'est le fait qu'il s'est replié sur lui-même, il s'est enfermé sur lui-même, et il a refusé de croiser ce regard d'amour. Et quatrième point alors qui apparaît dans cette définition, c'est la vérité. L'humilité est la vérité. Donc s'humilier, ce n'est pas se croire coupable de péchés que l'on n'a pas commis, ni demander pardon au nom de ses ancêtres pour des péchés qu'ils n'ont pas commis. Mais c'est voir la réalité telle qu'elle est. Voir Dieu comme Dieu nous verra au moment où nous paraîtrons devant lui. Ce ministère qui montre que c'est beau de voir les hommes qui se convertissent sur leur lit de mort et qui deviennent comme de petits enfants. C'est ce que dit la Sainte Écriture. Si vous ne redevenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais un homme qui se convertit sur son lit de mort, alors c'est vraiment très très beau. Parce qu'on sent qu'il est... alors qu'avant, il y a ce combat, certes, qui existe. Hein, donc on veut jouer au dur, l'homme veut toujours faire le gros dur. Et puis malgré tout, face à la mort, il a les pétoches. Et alors quand il accepte le passage du prêtre, après il devient... Et tout simplement parce qu'il vit dans le réel. Moi, les conversations les plus profondes que j'ai pu avoir dans mon ministère, c'était auprès des personnes qui étaient sur le point de mourir. Des personnes qui avaient encore toute leur lucidité et qui savaient que c'était le dernier moment, était presque arrivé. Parce qu'en ce moment-là, on parle de choses importantes. C'est pas le moment de dire « Ah oui, alors, qu'est-ce que vous allez acheter comme voiture maintenant ?» Et puis « Ah oui, puis alors, elle va se marier ?» Toutes ces questions-là, vous savez, ça, au moment de la mort, ça disparaît. Donc, ce sont les questions importantes qui sont abordées. Et c'est très beau. C'est très beau de voir une âme. Et parfois, on se dit, en ce moment-là, si toutes les âmes qu'on rencontrait étaient comme ça, ce serait formidable. C'est pour ça que la Bruyère pouvait dire « La vie est un sommeil ». Ça rassure certaines, là, ce soir. Ouais, moi, je suis bien vivante. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été le plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. Vérité. Et pour nous, c'est important de le comprendre, parce que si on croit que l'humilité, c'est nous abaisser, s'humilier d'une façon indue, ben, on n'est pas porté à le faire. Si on sait que c'est la vérité, si on a quand même ce souci d'essayer de vivre dans le vrai et non pas dans l'illusion, ça doit nous pousser à pratiquer davantage cette vertu. Sainte Thérèse d'Avila écrit « Je me demandais un jour pour quelle raison notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. C'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. Or, c'est une très haute vérité que de nous-mêmes, nous n'avons rien de bon, mais plutôt la misère et le néant. » Donc maintenant, il va falloir parler justement de ce dernier aspect, c'est ce rapport entre l'humilité et le néant de l'homme. Donc ce mot néant peut paraître exagéré, mais c'est vu encore sous un certain rapport. Néant, ça signifie que par lui-même, l'homme ne peut rien. Gérer un capital, mais il gère les dons qu'il a reçus, mais... Les dons, ce n'est pas nous qui nous les sommes communiqués. On les a reçus de nos parents, on les a reçus d'abord du capital génétique, on peut dire. Ensuite, on a reçu de l'éducation qu'on a pu recevoir. Et puis ensuite, des actes libres qu'on a posés dans le passé. Mais le capital, venait de Dieu. Donc la seule chose que l'homme peut faire, c'est gérer un capital, plus ou moins bien. Et s'il le gère bien, c'est toujours avec l'aide de Dieu. Parce que par nature, on a tendance à aller vers le plus facile et donc à gaspiller ce capital. Alors maintenant, on va voir l'humilité selon saint Thomas d'Aquin, après avoir vu la nature de l'humilité. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur saint Thomas. Jusqu'ici, on a dit que l'humilité... est le fruit d'une connaissance, elle n'est pas une connaissance, mais le fruit d'une connaissance, qu'elle résulte de la double connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Alors pour saint Thomas, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes fait partie de l'humilité, c'est un élément de l'humilité, et comme une règle pour notre volonté, mais selon lui, c'est surtout dans la volonté que se situe l'humilité. L'humilité est plus dans la volonté que dans la connaissance. Donc l'âme qui est humble réalise que spontanément, si elle se laisse aller, elle a tendance à se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Donc par des actes de volonté, elle va modérer cette tendance naturelle à se mettre en avant, son désir d'excellence. Donc il s'agit de compenser par des actes l'attirance déréglée que l'on peut avoir pour la mise en valeur de nous-mêmes, donc de l'orgueil. Le piège de l'humilité, c'est la volonté. Et puis ensuite, l'humilité par rapport à Dieu. Pour saint Thomas, le principal motif de l'humilité semble être la soumission à Dieu. Voici ce qu'il disait. L'humilité, c'est une attitude révérentielle, habituelle, intérieure devant Dieu, devant notre Seigneur. Et c'est ce que je vous disais hier, c'est que, justement, en apprenant à vivre en présence de Dieu, eh bien, on apprend à devenir humble. L'un des moyens pratiques de vivre dans l'humilité, c'est de vivre près de notre Seigneur. Alors l'humilité maintenant par rapport au prochain. On doit s'incliner devant Dieu en lui-même, mais on doit aussi s'incliner devant Dieu présent dans notre prochain. Et justement, un des moyens de devenir humble, c'est de comparer ce qu'il y a de Dieu dans le prochain à ce qu'il y a en nous, de ce qui vient uniquement de nous. L'humilité exige donc que l'on s'incline lorsqu'on se considère soi-même et selon ce qui vient de soi devant le prochain, considéré selon Dieu et selon ce qui lui vient de Dieu. Mais elle n'exige pas que l'on se mette au-dessous des autres lorsque l'on considère ce qui paraît être de Dieu en eux et ce que l'on sait être de Dieu en soi-même. Ni non plus qu'on tienne comme inférieur ce qui en soi vient de l'homme par comparaison à ce qui vient aussi de l'homme en autrui. C'est une question de vérité et de sincérité. Donc si je considère ce qu'il y a de l'homme dans le prochain, si je considère par exemple, si vous voulez, les défauts du prochain et que je les compare à mes qualités, le fait de dire, bah oui, en effet, je suis vraiment nul, parce que quand je compare les défauts des autres à mes qualités, je dois considérer que je suis nul. Non, parce que de fait, par mes qualités et par ces défauts, je leur suis supérieur. Alors comme j'ai justement cette tendance naturelle, ce qu'il faut au niveau surnaturel, c'est faire l'inverse. Comparer mes défauts aux qualités des autres. Je regarde mes défauts, puis je regarde les qualités des autres. Je me dis, oh, oui, qu'est-ce qu'il a comme don celui-là? Parce que moi, je n'ai pas ce don-là. Et c'est le moyen pratique d'arriver, un des moyens encore pratiques, d'arriver à acquérir cette vertu d'humilité. Et malheureusement, je vous dis, naturellement, on a plutôt tendance à comparer les défauts des autres à nos qualités pour conclure que finalement, on n'est pas si mal que ça. Que donne saint Thomas d'Aquin? Étant donné notre propension à l'orgueil, et pour pencher par vertu dans le sens opposé à celui où nous penchons par nature, il est légitime, louable, de considérer en autrui surtout le bien que nous n'avons pas, et en nous le mal que le prochain n'a pas. Ensuite, un autre aspect très important pour bien connaître l'humilité, c'est le rapport qu'il y a entre humilité et magnanimité. Donc, le magnanime, c'est celui qui est capable de faire de grandes choses. Donc l'humilité consiste à s'abaisser, mais pas de telle sorte qu'on se juge indigne de faire quoi que ce soit, et qu'on laisse finalement ses talents inexploités. Comme je le disais au début, c'est de la paresse et non pas de l'humilité. Donc l'âme humble
Elle sait reconnaître les talents que Dieu lui a donnés, lui a confiés, et elle sait qu'elle a le devoir de les faire fructifier. Donc celui qui a reçu peu, il ne doit pas se croire capable de beaucoup, puisqu'il a peu reçu. Ce serait encore manquer à la vérité. Mais il doit chercher à développer les dons selon sa mesure. C'est le sens de la parabole des talents. Celui qui avait reçu 5 talents en a gagné 5 autres. Celui qui en avait reçu que 2, ben, il en a gagné 2 autres. Et celui qui en a reçu 1, lui, parce qu'il n'a pas fructifié son talent, mais qu'il a enfoui dans la terre, il a été condamné par Dieu. Donc notre Seigneur nous dit que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux, pour qu'il voit vos œuvres. Donc, il faut que ces œuvres apparaissent. Et pour qu'elles apparaissent, il faut agir. C'est la gloire de mon Père que vous donniez du fruit en abondance et que vous deveniez ainsi mes disciples. Donc, l'humilité, vous voyez, n'est pas la pusillanimité. L'humilité ne consiste pas à s'enfermer dans sa coquille et puis à rester dans son coin. Bon, chacun sa vocation, hein. Il y en a qui ont peut-être des vocations d'ermite, mais c'est pas la vocation de toutes ici, je pense pas. Sinon, je viendrais voir les prêtres auparavant pour demander conseil. On voit cela en Saint Paul. Saint Paul qui a l'humilité de reconnaître qu'il était persécuteur des chrétiens avant sa conversion, mais qui ensuite, ayant confiance dans la force de Dieu, disait « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Donc l'humilité suppose la connaissance de ses talents, et la magnanimité également, mais la magnanimité est même plus que la simple confiance dans ses talents, elle repose essentiellement sur l'assurance d'être aidée de Dieu, si elle fait, elle, ce qui dépend d'elle, bien sûr. Et que les saints ont été capables de grandes choses, c'est qu'ils ont été capables de reconnaître les talents que Dieu leur avait confiés. Ils ont compris qu'ils devaient les développer. Et en même temps, ils se sont appuyés essentiellement sur l'aide de Dieu pour arriver à mener à bien leur mission. C'est ici qu'on va voir encore la différence qu'il y a entre les païens et les chrétiens. Parce que les païens, j'avais dit qu'il y avait une certaine magnanimité, il y a eu des héros chez les païens. Mais eux ne comptaient que sur leur force pour acquérir, pour triompher des obstacles, tandis que nous, nous nous appuyons essentiellement sur Dieu. Le magnanime, il emploie les talents que Dieu lui a confiés, donc il ne laisse pas en friche, mais il n'oublie pas qu'il n'est rien par lui-même. Qui était un très grand maître spirituel, très grand directeur d'âme. Il disait que c'était important de constater notre néant, réaliser que par nous-mêmes nous ne sommes rien, mais il ajoutait qu'il ne faut pas se polariser uniquement, ni même principalement sur cet aspect de notre nature, et qu'il est important de considérer tous les biens qui sont en nous par la grâce de Dieu. Ce serait avoir une spiritualité tronquée que de voir d'un côté le vieil homme, si vous voulez, de voir ensuite la miséricorde de notre Seigneur et d'oublier de voir l'homme nouveau. François de Sales. L'humilité n'est autre chose qu'une parfaite reconnaissance que nous ne sommes rien qu'un pur néant. Mais elle nous enjoint de nous estimer grandement à cause des biens qui sont en nous et non pas de nous, à savoir la foi, l'espérance, la charité, comme aussi une certaine capacité que Dieu nous a donnée de nous unir à lui par le moyen de la grâce. Cette estime est le fondement de la générosité de l'esprit. Si on regarde uniquement sa misère, ça nous décourage. Donc qu'est-ce qui nous permet d'aller de l'avant ? Eh bien, c'est de voir le positif. Donc avoir une vision uniquement négative de notre âme pour soi-disant acquérir l'humilité, c'est une erreur. Parce que cela nous conduit plutôt au découragement, à la faiblesse, qu'à la générosité. Et le signe alors que l'humilité que nous cherchons à acquérir vient de Dieu, c'est lorsqu'elle ne nous trouble pas. C'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. L'humilité véritable ne trouble pas, n'agite pas l'âme. Sans doute, la vue de sa misère lui montre clairement qu'elle a mérité l'enfer
et la jette dans l'affliction. Elle n'ose pour ainsi dire pas demander miséricorde, mais cette peine répand en l'âme une telle suavité et un tel contentement que l'âme ne voudrait pas en être privée. Donc là, bien sûr, elle parlait en tant que sainte, mais c'est vrai aussi pour nous. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une âme, il vient dans une âme pour l'apaiser et non pas pour la troubler. Donc, je poursuis ce qu'elle dit. L'humilité ne trouble point l'âme et ne la resserre point. Elle la dilate au contraire et la rend plus apte au service de Dieu. Donc, si je veux savoir si l'humilité vers laquelle je tends est une humilité qui est vraie, est-ce qu'elle me pousse à faire le bien? Est-ce qu'elle me pousse à agir dans le bon sens? Ou est-ce qu'elle me replie, elle me conduit à me replier, à me renfermer sur moi-même? Alors maintenant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa petite voix, la voix d'enfant de Sainte Thérèse, c'est à nouveau la voix de l'humilité. Eh bien, pour elle, humilité et confiance vont de pair. Voici ce qu'elle dit. « Rester petit enfant devant Dieu, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. » C'est encore ne pas s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor de la vertu dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est ne point se décourager de ses fautes. Donc le fait de se décourager de ses péchés, c'est encore un manque d'humilité. Et vous voyez bien que cette humilité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'était pas encore incompatible avec la grandeur d'âme, au contraire. Elle disait, je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, de docteur, de martyr. Je voudrais accomplir les œuvres les plus héroïques. Dévorer son âme. Donc l'humilité véritable engendre la magnanimité. Ce sujet, Monseigneur Hugh Sorn, archevêque de Birmingham au siècle dernier, un peu longue. L'humilité est l'acte intérieur, spirituel et sacrificiel par lequel nous offrons à Dieu, avec la vénération et la gratitude la plus profonde, l'être et la vie que nous avons reçus de lui, les accompagnant du désir et de la prière de mourir à nous-mêmes et de ne vivre que pour lui, d'être changés et transformés en sa ressemblance, détachés de la terre et unis à lui. Donc il dit que l'humilité, selon lui, c'est cet acte intérieur qui consiste à reconnaître que nous ne sommes rien, et à nous offrir spontanément, entièrement au bon Dieu, pour mourir à nous-mêmes et pour vivre en lui, parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour Dieu. En nous offrant à Dieu, on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, on fait ce qu'on doit faire en tant que créature, déjà, simplement, et puis ensuite en tant que fidèle. Et c'est là notre bonheur. Et c'est ainsi qu'on peut voir comment toutes les vertus, vous voyez, s'unissent les unes aux autres. L'humilité parfaite coïncide avec la charité parfaite. C'est ce qui apparaît ici. Si nous sommes parfaitement humbles, nous serons parfaitement charitables. Et là, c'est aussi consolant de voir ce lien qu'il y a entre les vertus. En fortifiant notre vertu qui nous manque le plus, on fortifie tout notre organisme spirituel. Et donc, on progresse en même temps dans les autres vertus. Un des moyens d'acquérir l'humilité, c'est la méditation. Si, comme on l'a dit, l'humilité, c'est le fruit d'une connaissance, eh bien, elle suppose cette connaissance. Et cette connaissance apparaît dans la méditation, dans l'oraison. C'est Davila, qui est une grande, auteur mystique. Et elle donne comme conseil de connaître Dieu plus que de connaître, finalement, même notre misère. Voyez ce qu'elle dit. À mon avis, dit-elle, nous croîtrions plus en vertu, donc cette vertu d'humilité, en contemplant les perfections de Dieu qu'en tenant les yeux de l'âme fortement attachés sur ce vil limon d'où nous tirons notre origine. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais cette connaissance de soi-même est si importante que je ne voudrais jamais vous voir négligente sur ce point, à quelque haut degré d'oraison que vous soyez parvenu. Car tant que nous sommes sur cette terre d'exil, rien ne nous est plus nécessaire que l'humilité. Le meilleur moyen, à mon avis, d'acquérir une parfaite connaissance de nous-mêmes, est de nous appliquer à bien connaître Dieu. Et c'est pour ça que la première instruction de cette retraite porte sur Dieu. Il ne s'agit pas d'abord de se regarder, il s'agit de connaître Dieu. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus nous apprendrons à essayer de nous voir en Dieu. Et c'est en apprenant à nous regarder en Dieu que justement la vue de notre misère ne nous décourage pas. Si la vue de notre misère souvent nous décourage, c'est parce qu'on considère notre misère indépendamment de Dieu. Et là, bien sûr que c'est décourageant. Sa grandeur nous fera connaître notre bassesse, sa pureté nos souillures, et son humilité nous montrera combien nous sommes loin d'être humbles. Nous tirons de cela deux avantages. L'un, de mieux voir notre néant à côté de la grandeur de Dieu. L'autre, que notre entendement et notre volonté s'ennoblissent et deviennent plus capables de toute espèce de bien. Donc, éviter le découragement. Je cite encore, c'est un peu long, mais je crois que c'est très important. Il y a un grave inconvénient à considérer uniquement notre limon et notre misère. Au lieu de couler pur et simple, le fleuve de nos œuvres entraîne dans son cours la fange des craintes, de la pusillanimité, de la lâcheté et de mille pensées qui troublent telles que celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas la présomption d'entreprendre une telle œuvre? Étant si misérable, est-ce qu'il me sied de m'occuper d'une chose aussi relevée que l'oraison? Pécheresse comme je suis, vouloir m'élever, n'est-ce pas m'exposer de tomber plus haut, de plus haut? Que d'âme il doit y avoir à qui le démon cause de grandes pertes par ces sortes de pensées. Elles prennent pour de l'humilité non seulement ce que je viens de dire, mais beaucoup d'autres choses semblables. Cela vient de ce qu'elles sont encore fort loin de se bien connaître, et qu'elles n'en prennent pas le droit chemin, se contentant de considérer leur misère sans s'élever à la considération des perfections de Dieu. Combien il nous est désavantageux de ne pas bien comprendre ce qui regarde l'humilité. Donc si vous voulez le retrouver, vous trouvez ça dans le château intérieur, la première demeure, le chapitre 2. Ensuite, autre manière d'acquérir l'humilité, ça sera la contemplation infuse. Comme on l'a dit, on peut acquérir l'humilité en partie par la réflexion, par la prière, mais c'est surtout par la contemplation infuse, donc c'est Dieu lui-même qui nous donnera cette vertu en nous faisant connaître... en nous montrant qui il est et qui nous sommes. Et là encore, Sainte Thérèse d'Avila en parle. Il y a une humilité que Dieu verse directement dans l'âme, dans les états supérieurs d'oraison, qui dépasse grandement l'humilité acquise, résultat de nos efforts aidés par la grâce. L'humilité fait saisir en un instant à l'âme ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer après de longues années de réflexion. La profondeur de son néant, et l'incomparable majesté de Dieu. Ensuite, on peut acquérir l'humilité en posant des actes d'humilité. On l'avait vu ce matin, une vertu s'acquiert par répétition des actes. Eh bien, c'est vrai de l'humilité. Et spécialement, on pourrait dire, parmi les actes d'humilité qu'on peut poser, on peut parler de l'obéissance, puisque ce sont deux vertus qui sont connexes. Une âme parfaitement humble est obéissante. Et une âme qui est vraiment obéissante, qui n'a pas uniquement une obéissance extérieure mais intérieure, est humble. Parce que là encore, les vertus s'appellent les unes les autres. C'est ça finalement, l'obéissance. Eh bien, on apprend à nous mettre à notre juste place. Et c'est un moyen de devenir humble. Est intérieur, et c'est là la difficulté. On peut obéir extérieurement mais en disant « comme toujours tu m'intéresses ». Bien sûr, à l'intérieur, on pense le contraire. Donc là, il faut que ce soit l'obéissance intérieure pour que ce soit méritoire, et pour que ça nous change. Ensuite, les confessions régulières. La confession est un acte d'humilité, de charité aussi, enfin d'espérance. Enfin, plusieurs vertus sont mises en action dans la confession, mais l'humilité en particulier. Et donc le fait d'avouer simplement ses fautes, telles qu'on les connaît, c'est un bon moyen d'acquérir cette vertu. Lire aussi de temps en temps les litanies de l'humilité. Alors il y en a certaines qu'on lit plus vite que les autres. Pourvu qu'il ne m'a pas bien compris. Que les autres soient choisis et moi mis de côté. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. Et puis ensuite, éviter les manifestations d'orgueil. Donc on peut acquérir cette vertu en... en attaquant le vice opposé. Spécialement à éviter de se mettre en valeur, ou l'esprit critique, on en a déjà parlé un peu. Parce que les jugements téméraires, si on juge les autres, c'est qu'on se situe au-dessus d'eux. Humilité encore, d'apprendre à ne pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Comment peut-on pécher avec le nez? Également apprendre à accepter les maladies, les tentations. Donc accepter la croix. C'est encore un manque d'humilité que de refuser les épreuves de la vie. Et puis alors, aimons la Sainte Vierge, demandons-lui le secret de cette vertu. Parce que l'on voit là encore comment l'humilité de la Sainte Vierge ne l'a pas conduit à la pusillanimité, mais à la magnanimité, puisqu'elle a accepté de devenir la mère de Dieu. Donc demandons-lui cette connaissance, cette reconnaissance à la fois de notre faiblesse, à la fois également de notre richesse, par la grâce, comme elle l'a chanté dans son Magnificat, Dieu qui s'est penché sur son humble servante, et elle reconnaissait que le Dieu avait fait en elle de grandes choses. Donc sachons le reconnaître aussi pour remercier Dieu, et essayons de cultiver ses dispositions pour acquérir cette belle vertu. Voilà, nous rendons à la chapelle.